Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco. Bonjour Maurice.
Bonjour Caroline.
À 12h25, ça sera votre chronique aujourd'hui.
Kebab aujourd'hui.
Kebab, ça tombe très bien, c'est un peu comme si vous l'aviez fait exprès, tiens. Puisque nous avons un menu spécial ado en cette rentrée, alors que les 13-18 ans, disons, ont repris le chemin du collège et du lycée, une étude de l'UNICEF vient alerter sur le fait que l'obésité est en forte progression dans le monde chez les 5-19 ans. Le nombre d'enfants concernés dans la même tranche d'âge a doublé en 20 ans. Si la France est moins touchée que d'autres, la façon dont les ados se nourrissent n'échappe pas au combo sucré, salé, fast-food, aliments ultra transformés, même si leur rapport à l'alimentation est en train d'évoluer. Alors comment mangent les adolescents et comment nous, parents et professionnels, pouvons-nous les aider à allier plaisir et santé? Les bonnes choses se mettent ce midi à la table des ados.
À table!
Frigo idéal, ce serait un frigo où il y a un peu de tout. Pas mal de salé et un peu de sucré, vu que j'aime bien les gâteaux, les barres de chocolat, les sneakers.
J'aime trop les chips, je crois que je suis vraiment passionnée.
En plus, c'est un peu addictif, c'est ça. Ouais, t'en prends une, tu vas en prendre 15, quoi. Genre, cette bouffe-là, c'est vraiment représentatif des ados, genre. Mm. On va jamais, justement, on va jamais aller chercher un quinoa, quoi.
Ah ouais, il est comme plein.
Je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans, et j'ai décidé d'être 100% végétarienne depuis 2 ans. Ne plus manger de viande, c'est un des gestes individuels qui va le plus impacter sur le climat.
Mon menu parfait, ce serait un bon dessert, donc de la galette des rois par exemple. Après, en plat, une tarte, une quiche, enfin de la pâte, parce que j'adore la pâte.
Il faudrait de la charcuterie. J'aime bien le saucisson.
Manger sainement, ça veut dire qu'il ne faut pas aller dans l'excès dans ce qu'on mange. Donc il faut savoir doser et varier.
Il faut qu'il y ait quand même des petits plaisirs de temps en temps, c'est-à-dire des McDonald's. Pas tout le temps, mais toujours un peu, parce que même si ça fait soi-disant du mal pour la santé, ça fait quand même du bien de temps en temps, une ou deux fois par mois.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Pour bien grandir!
Ne mange pas
trop gras,
trop sucré,
trop salé!
Petit mix réalisé par Jean-Christophe Francis. Bonjour Stéphanie, Antoine.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef consultante en cuisine végétarienne et co-auteur du livre L'ado la dalle que vous avez écrit avec Pauline Beauvais, paru aux éditions La Martinière. Un livre où on retrouve un peu tous ces profils qu'on vient d'entendre,
tout à fait,
bourré d'humour et d'informations avec des recettes, des conseils. Écrit pour vous préparer à la phase de l'adolescence que va connaître votre fille et donc vous dans quelques années, si j'ai bien compris.
Voilà, moi je fais des livres de cuisine pour me préparer au futur en fait.
Oui, c'est un peu ça.
En gros, le premier livre c'était pour faire manger des légumes aux enfants et pour ma fille ça a marché. Du coup, c'était ma testeuse, donc j'avais un super argument. Je vous conseille à tous les parents qui n'arrivent pas à faire manger des légumes aux enfants, dites-leur, j'écris un livre, goûte pour maman, ça marche très très bien.
C'est un livre, l'ado la dalle, à destination des parents ou des ados? Parce que vu
alors,
le vocabulaire, c'est plutôt les ados.
Ouais,
hein.
L'ado la dalle, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est confronter le parent un peu vieillissant, le boomer, qu'on appelle dans le livre le boomer, qui peut en fait être un millénial, mais qu'on appellera le boomer, avec la génération Z. Et ce nouveau langage super marrant à découvrir, c'est pareil, on a envie de se moquer, on a envie de rester à l'écart de tous ces trucs qu'on comprend pas chez les ados, mais vraiment je vous invite à accueillir tout ça, c'est vraiment marrant.
Parents et ados qui sont pas toujours sur la même longueur d'onde, les parents voulant toujours couver leurs ados qui vivent encore chez eux, mais qui ados sont en quête d'autonomie et ça passe parfois par la rébellion. Donc l'idée c'est aussi de les réconcilier à travers ce qu'ils mangent, ce qu'ils et elles mangent et à travers votre livre. Damien Conaré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde à Montpellier, SUP Agro. Des ados à la maison?
Des post-ados, hein, maintenant 21-23 ans, donc...
On les appelle parfois les adolescents. Voilà, les adolescents, ça peut durer très longtemps. Enfin bon, vous avez 8 profils d'ados dans votre livre, Stéphanie et Antoine. On va essayer de rester dans ce cadre-là, en tous les cas, des jeunes qui sont encore chez leurs parents. Partons de quelque chose qui est pas très gai, qui est quand même l'étude UNICEF parue récemment dont j'ai parlé. Les adolescents seraient matraqués par la publicité, pour la malbouffe, les boissons ultra sucrées, les encas ultra transformés. Les impacts des réseaux sociaux sont considérables. Ils ne sont pas toujours que négatifs. Stéphanie et Antoine, vous en parlez.
Moi, je trouve qu'ils sont matraqués par la pub, la malbouffe, etc., qui donne très envie. C'est cool, c'est dégoulinant, c'est food porn, etc. Mais ils sont aussi matraqués par une sorte de nutritionnalisation à l'excès qui va essayer de leur dire il faut manger comme ci, il faut faire ça. Manger des protéines si vous êtes sportif, évitez le sucre si vous faites attention à votre poids.
Beaucoup d'injonctions.
Beaucoup d'injonctions. Et en fait, il ne faut pas oublier que les troubles de l'alimentation, qui se développent beaucoup au moment de l'adolescence, c'est la deuxième cause de mortalité précoce chez les 15-25 ans. Donc en fait, de venir toujours marteler des infos, qu'elles soient justes, pas justes, pour la porn food ou pour la food healthy, en fait, il y a un gros souci de pas laisser l'enfant vivre son expérience.
Pourtant, Damien Conaré, ce qu'on sait, c'est que l'alimentation, à cet âge-là, bon, déjà tout petit, mais à cet âge-là, elle est primordiale, autant pour leur santé physique que mentale, et aussi que c'est quelque chose de primordial parce que ça prépare à l'alimentation des jeunes que vous étudiez beaucoup.
Ouais, absolument. C'est effectivement très remarquable parce que c'est des habitudes alimentaires qui vont marquer souvent très durablement l'évolution de ces comportements alimentaires dans la vie plus tard. Et c'est vrai que vous faites bien de noter cette récente étude de l'UNICEF, et qui est vraiment publié cette semaine, et qui est effectivement assez négative dans les chiffres qu'elle révèle. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, il y a dans le monde 16% des 14-19 ans qui sont en situation de surpoids. Et ça, c'est absolument considérable, parce qu'on sait que derrière, ça obère des problèmes de santé, de développement qui soit sain, en bonne santé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette étude, elle insiste beaucoup sur l'environnement alimentaire. Et donc, ça, c'est pour faire le pendant de ce que vous disiez sur les injonctions qu'on fait aux ados ou aux jeunes sur le bien manger, ou même d'ailleurs d'une manière générale, comme si nos choix alimentaires étaient dictés uniquement par notre volonté. Bon, on sait bien qu'on est pris dans un environnement alimentaire, donc c'est les magasins auxquels on peut accéder, c'est la publicité auquel on est soumis, c'est des politiques publiques dans lesquelles on se situe, des normes sociales, des injonctions, etc. Et ça, ce rapport pointe vraiment le poids de l'environnement alimentaire et montre que un peu partout dans le monde, en fait, il y a beaucoup d'environnements alimentaires qui sont malsains et qui vont favoriser une alimentation plutôt pauvre d'un point de vue nutritionnel. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème parce que on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui vont être soumis à beaucoup de publicité, beaucoup de marketing relativement agressif. Nous, il y a une expérience qui est super intéressante qui a été menée par une ONG en Grande-Bretagne. Ils ont travaillé avec 8 adolescents, et 8 adolescents vraiment de différents milieux sociaux, de différents genres, etc., qu'ils invitent au restaurant à choisir un plat au milieu de 50 plats. Et chacun des adolescents vient à tour de rôle dans ce restaurant. Et en fait, ils les accompagnent dans leur parcours depuis chez eux jusqu'au restaurant en matraquant, sans qu'ils s'en rendent compte, une pub pour un objet en particulier, un plat en particulier, qui est un espèce de poulet rôti, gras, qui brille, salé, etc., dont on devine qu'il est évidemment très appétissant. En fait, ils les amènent en taxi, dans lequel il y a un écran sur le siège arrière. Donc, ils voient la pub, ils les font marcher à pied, il y a des publicités dans la rue, il y a une pub radio, ils les inondent aussi sur leurs réseaux sociaux. Et finalement, chacun des 8 adolescents, une fois arrivé au restaurant, commande le même plat. Et quand on leur révèle leur parcours, finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce qu'ils ont vu.
Et pas du tout autonomes.
Et un des ados qui dit, mais c'est incroyable, c'est mon subconscient m'a joué des tours. Et on voit le poids, là, effectivement, de l'environnement alimentaire et de la publicité sur les comportements.
Ça me fait un peu penser quand on parle des cheminements dans les supermarchés. En fait, dans les grandes surfaces, souvent, on dit les gens ne prennent pas la responsabilité de bien manger, de bien se nourrir, de bien acheter. En fait, on est au supermarché et on a des murs entiers de soda, des réductions, des murs entiers de produits transformés en réduction. Il y a peu de chances qu'on aille vers au rayon poireaux.
De l'autre côté, en même temps, pour prendre les choses positivement, l'alimentation est au centre des réseaux sociaux, ça permet aussi à cette génération d'ados aujourd'hui d'être plus sensibilisés à l'alimentation. Mais c'est-à-dire qu'ils ne s'en fichent plus.
Je me suis rendu compte en fait que l'alimentation, la nourriture, la cuisine est un peu au centre des médias depuis une quinzaine d'années. Et en fait, nos ados aujourd'hui, ils ont 15 ans. Donc, ils sont vraiment nés avec les top chefs, les master chefs, tous les réseaux sociaux, toutes les stars des réseaux sociaux qui font la cuisine, qui ont à peu près leur âge. Enfin, il y a tout un truc qui s'est créé. Je pense qu'ils sont super sensibilisés à la cuisine. Je pense qu'ils ont tous envie, beaucoup envie de cuisiner. Ils voient ça comme de la créativité aussi et de la joie. Donc, c'est génial. Juste, il y a un petit décalage d'immédiateté dans les recettes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et la vraie vie.
Et tous ne mangent pas si mal. Il y a même des adolescents qui se mettent à cuisiner et à partager leurs recettes sur les réseaux sociaux. C'était un article de Charlotte Langrand dans la Tribune du Dimanche qui nous a éveillés à cette idée. Écoutez par exemple.
Dans la cuisine d'un ado de 16 ans, aujourd'hui, on fait un tartare au couteau. Let's go. Je commence par faire tremper mes os à moelle dans de l'eau froide pour les faire dégorger de leur sang. Ensuite, je prends mes couteaux et je vais venir ciseler mes condiments. Je commence par mon échalote. Je vais la couper en brunoise, c'est-à-dire en faire des petits cubes très réguliers. Ensuite, je viens hacher mes cornichons, mes anchois et mes câpres. Je fais pareil pour mes herbes, c'est de la coriandre et de la ciboulette. Puis je passe à la découpe de ma viande, c'est du filet de bœuf et je vais venir tailler des petits cubes réguliers. Je récupère mes os à moelle qui ont fini de dégorger et je vais tout simplement les passer au four. Je passe maintenant à la confection de mon tartare. Je vais mélanger la viande avec tous les condiments. Je rajoute un os à moelle, de la moutarde, de la sriracha et un jaune d'œuf. Et je mélange le tout. Il suffit maintenant de dresser donc du tartare, des chips et de l'eau à moelle. Et bien sûr, bon appétit. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Alors on y va.
Si je peux le faire, alors vous pouvez le faire. C'est pas mal. Alors c'est Léonard Leclerc dans ce compte Instagram. Il a quand même 54 000 abonnés. Il est peut-être pas représentatif de toute une classe d'âge. Je sais que les ados adorent Loulou Kitchen, par exemple, sur TikTok et sur Instagram. C'est plus d'un million d'abonnés, bien sûr. En particulier Léa Varin qui travaille avec nous, qui aime particulièrement. La recette d'Ice Tivani Manque Passion a fait un carton cet été. Mais bon, quand même, Léonard Leclerc, c'est intéressant de voir ça sur Instagram.
C'est super intéressant, c'est-à-dire l'idée que effectivement si je peux le faire, vous pouvez le faire. Enfin là ça marche à plein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un processus d'identification qui fait que là on parle entre pairs. Du coup on est plus dans le mode de la conversation, c'est pas de l'injonction qui descend et du coup il y a vraiment un modèle d'exemple qui peut être répercuté. Moi effectivement ma jeune ado qui effectivement se mettait à cuisiner en voyant d'autres jeunes cuisiner sur les réseaux sociaux.
Il y a des tutos dans tous les sens.
Absolument, très positif et puis aussi une grande ouverture sur les cultures alimentaires du monde. Nous on a organisé cette année une grande conférence sur les alimentations africaines et on a une jeune collègue qu'on missionne toujours, regarde sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe et dis-nous ce qui se passe. Et en fait, il y avait un énorme buzz en fin 2024, début 2025, autour du foutou sauce graine.
Donc, ça fait rigoler Maurice.
Incroyable, hein. Parce que c'est comme disait un jeune Ivoirien qui était interviewé, sur son compte Instagram, qui dit, mais c'est incroyable, c'est un plat complètement niché de Côte d'Ivoire, complètement inconnu en dehors du pays. Et tout d'un coup, on voyait des jeunes influenceuses du 16e, en France, à Paris, qui tout d'un coup, se mettaient à manger avec les mains du foutou sauce graine pour dire, regardez, c'est trop délicieux. Donc là, il y a aussi une influence extrêmement positive des réseaux sociaux. Après, quand même, modulé aussi, mine de rien, il y a une recherche qui est très intéressante qui a été faite par une chercheuse, une sociologue de l'Université du Havre, Pascal Aizan, qui a justement étudié tous les comptes autour de l'alimentation pour voir un petit peu ce qu'ils disaient, ce qu'ils promouvaient. Et en fait, elle révèle que finalement, ça accentue les stéréotypes de genre. En fait, beaucoup de comptes pour les filles, c'est beaucoup une injonction à la minceur, finalement.
Absolument.
En tout cas, une volonté de minceur. Et pour les jeunes hommes, prendre muscle, du muscle, oui. De la protéine. Donc, mine de rien, alors qu'on imaginait une génération beaucoup plus fluide sur ces questions-là, il y a aussi un renforcement de stéréotypes de genre à travers les réseaux sociaux.
Stéphanie Antoine,
c'est complètement vrai. Et les plus gros influenceurs autour de l'alimentation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est souvent autour de la santé. Et moi, ça me gêne beaucoup, en fait, que l'adolescent soit déjà mis en face de ces questions de santé. En fait,
parce qu'on en fait trop, vous trouvez?
Parce que, en fait, c'est un adolescent, ça reste un enfant dans une famille avec des parents qui prennent soin de lui. Et je pense que la joie doit être au centre de son alimentation et de son assiette, ou autour de son assiette. Pas la santé, pas la peur, pas pas et puis après on va jusqu'à la grossophobie. Dans sur ces comptes-là aussi c'est hyper dur ce qui peut se passer, ce qui peut se dire et on a envie que l'enfant soit un peu libre. En fait, cet adolescent dans quelques années, il va tomber dans l'âge adulte et dans les moules dans lesquels il va devoir rentrer. Est-ce qu'on n'a pas envie un petit peu de le laisser dans la joie, dans le rire, dans l'humour et peut-être de le soulager de ces questions-là de santé qui, je pense, en plus en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la santé. Pas par des nutritionnistes, pas par des médecins, par des influenceurs. Et on a envie de leur dire, mais ça marche pour toi, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Laisse-nous avec notre santé.
C'est-à-dire que pour vous, la seule injonction valable, Stéphanie et Antoine, ce serait de leur apprendre le plaisir et le goût.
Ben, la joie, et je pense que c'est vraiment l'âge où on a envie de kiffer.
Donc avoir des légumes frais à la maison, c'est bien, mais...
C'est super, et on peut faire des trucs très bons, très cool et marrants.
On peut leur dire qu'on peut faire des trucs bons et cool et marrants, c'est ça. Par exemple, faire sauter des courgettes, c'est facile et c'est bon. C'est ça l'idée.
Quel conseil
vous donnez à ces parents qui savent pas trop comment faire?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a l'idée que, en fait, c'est vrai que si l'enfant, si l'adolescent a grandi dans un environnement alimentaire à la maison, où il a vu des gens cuisiner, où il a vu des gens prendre du plaisir à manger, où il a vu des gens rire autour de l'alimentation, et où le dîner n'était pas un moment de conflit, ça aide à se mettre à la cuisine. Ça aide à se dire qu'on peut gagner en confiance en cuisinant, qu'on peut faire des choses belles, faire plaisir à la famille. Bon. Voilà. Si on a les moyens, tout ça, c'est encore des questions de niveaux sociaux et puis de chance dans la vie. Moi, je trouve que d'envoyer l'enfant, l'ado, faire ses courses et de lui apprendre à lire les étiquettes, les prix, choisir les produits bruts, lui dire pourquoi on prend brut, qu'est-ce qu'il y a dans un produit transformé, qu'est-ce que c'est ultra transformation, un peu ces trucs-là. Donc, on parle de santé, mais on parle surtout de vas-y, t'es indépendant, tiens et va faire nos courses et reviens à la maison et on en discute. Je trouve que ça peut être une bonne stratégie.
Il est midi 17 sur France Culture, vous écoutez les bonnes choses, nous sommes à la table des ados. Et comme nous sommes à la table des ados, on va quand même se demander ce qu'il et elle mangent, ce qu'il et elle aiment.
C'est vraiment la définition de malbouffe, le kebab. Ouais, vraiment. Ma mère, elle comprend ça, mais elle cautionne, ouais, elle pas à fond, genre. Ouais.
Moi, il me dit c'est un truc de jeune. Typiquement, il me dit
oui,
ça.
Oui, je pense. Je préfère les fast-food et les trucs comme ça parce qu'on est entre potes. Et tu sais, c'est un moment de vie plus que quand on est au resto et qu'on est à quatre avec des parents. Enfin, genre, c'est pas pareil, tu vois.
En fait, j'aime pas trop le resto.
Moi non plus, j'aime pas trop, en fait.
Ah ouais,
moi, je suis pas fan.
En fait, c'est un fast-food, mais en plus élaboré.
Alors moi, j'ai une ado à la maison et j'ai fait un petit test. Je lui ai dit, qu'est-ce que toi, je sais ce que tu aimes, mais qu'est-ce que toi et tes amis vous aimez manger? La réponse a été, bon, il y a les burgers, les kebabs, les tomates feta, les pâtes, les pizzas, les sushis. Est-ce que c'est représentatif, Stéphanie Antoine, de ce que vous avez rencontré dans vos études?
On a fait, nous, pour écrire le livre pour l'ado la dalle, on a écrit un questionnaire qu'on a distribué à pas mal d'adolescents, donc trois classes dans un collège, puis les adolescents autour de nous. Et c'est vrai que ce qui est ressorti, c'est la Sainte Trinité, sushi, tacos, kebab. Donc le tacos, pas mexicain, le tacos français. Un autre niveau de malbouffe. Là, on est c'est vraiment compliqué. Celui où il y a les frites, la double, triple viande, la sauce fromagère, etc. Donc ça, c'est gros kiff. Mais effectivement, ce qu'on dit, c'était l'environnement de dégustation, entre guillemets. C'est qu'ils sont ensemble. Ils arrivent avec moins de 10 balles à déjeuner comme des grands, en fait, et puis à se créer leur groupe. C'est hyper social de déjeuner ensemble à l'extérieur de la maison. Donc c'est ça. Mais...
Surtout quand on mange pas si bien à la cantine. Faut bien se débrouiller.
C'est ça. Et quand enfin, ils ont la chance de se dire, ah, on a 10 balles pour déjeuner plutôt que d'aller à la cantine, on a le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 euros.
Et Damien Conaré, parce qu'il y a des ados, il y a des jeunesses, hein, on ne peut pas parler d'une adolescence. D'ailleurs, même dans le livre de Stéphanie Antoine, il y a déjà 8 profils d'ados différents. Mais s'il y a bien quelque chose qui les rassemble, c'est de plus en plus la précarité. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et donc, ça explique peut-être qu'ils se dirigent vers des cuisines qui sont moins chères. Quoique on peut se demander si parfois les burgers aujourd'hui, enfin le menu burger, il n'est pas forcément moins cher qu'un sandwich qu'on va acheter à la boulangerie. Mais enfin bon, c'est une autre question. Et ça joue beaucoup sur la malbouffe.
Ouais, clairement, parce qu'effectivement, on peut avoir des injonctions à la santé ou bien manger. Mais enfin, il y a un moment, c'est le porte-monnaie aussi qui va décider nos choix alimentaires. Ça, c'est le cas pour tout le monde, mais évidemment pour les ados en particulier, puisqu'ils ont en général assez peu de moyens. Et c'est vrai que on a une jeunesse qui est très variée. C'est-à-dire que c'est pas simplement ce qui les caractérise. caractérise de partager le même âge. C'est aussi, est-ce qu'il est différencié beaucoup, souvent, la question du genre. Et donc, ça va jouer sur le rapport au corps, sur, évidemment, la classe sociale, économique, le lieu de vie. On va pas manger et vivre de la même manière en milieu rural, en milieu urbain. Mais effectivement, ce qui peut rassembler tout le monde, et c'est ce que les sociologues montrent, en tout cas, c'est l'expérience de la précarité. Alors, le kebab, c'est pas l'expérience de la précarité presque. Alimentaire, bon, et qui fait qu'effectivement, on a peu de moyens, donc, et pour autant, peu de moyens pour accéder à des lieux de commensalité, de partager ensemble un repas. Ça, c'est ce qui est quand même assez formidable. C'est-à-dire de retrouver ce plaisir, on l'a entendu dans les témoignages.
Mais ça veut dire aussi que ce qu'ils aiment, ça correspond pas nécessairement à leurs besoins, pour revenir à cette
absolument.
Histoire.
Absolument.
De...
Mais ça, il y avait un très bon témoignage que j'ai retenu là. On sait que ça peut faire du mal pour la santé, mais ça fait tellement de bien. Donc c'est vraiment la notion de plaisir qui est évidemment très importante en alimentation. Et évidemment, le plaisir va pas forcément être lié à la santé, mais au moins le plaisir de manger ensemble, de se faire plaisir sur un aliment.
Ça fait partie de la santé mentale aussi, d'être dans le kiff.
Et vous, vous êtes chef consultante en cuisine végétarienne, Stéphanie Antoine. Oui. Vous dites dans votre ouvrage, La Dole à Dalle, qu'il y a un nœud quand même autour de la question des légumes, sans même parler du végétarisme. Il y a un nœud parce que vous dites que c'est un sujet très clivant. C'est soit on est complètement pour, soit on est complètement contre. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent les légumes.
En tout cas, la cuisine végétarienne, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de sensibilisation en atelier et je viens jamais asseoir mon autorité de sachante en disant « il faut être végétarien ». Je dis juste « réduisez ». Votre consommation de viande, comment le faire, quels sont les outils, et quels sont les outils en fonction de vos moyens, surtout. Et l'adolescent, en fait, effectivement, quand on a choisi ces 8 profils d'adolescents avec Pauline, ma co-autrice, on s'est vraiment dit qu'il y avait des adolescents, on n'allait pas pouvoir faire un livre végétarien. Moi, c'était plutôt mon envie, mais c'est vrai que c'est pas possible. Et quand on a le profil de l'ado engagé, qui sera une femme ou une jeune fille ou un garçon qui va faire attention à ce qu'il mange parce qu'il connaît son impact sur l'alimentation, ce que disait une fille aussi dans un des petits reportages, ça va être super de proposer et on peut faire manger du quinoa aux adolescents. Oui. Et pour l'ado sportif qui est certain qu'il faut manger du poulet pour avoir ses protéines, on va l'encourager et puis lui expliquer comment apporter des protéines différemment. Mais je pense qu'il faut vraiment sensibiliser en prenant en compte chaque individualité, contrairement à ce que font les réseaux sociaux avec la nutrition, par exemple.
Damien Connaret, vous faites aussi des ateliers de sensibilisation. Vous êtes quand même au contact de beaucoup de jeunes dans votre chaire alimentation du monde à Supagro de Montpellier pour l'UNESCO. Qu'est-ce que vous constatez dans ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils aiment effectivement ce qui coule et ce qui se mange avec les mains?
Alors nous, c'est vrai qu'on mène pas directement des ateliers de sensibilisation auprès de jeunes. On n'est pas directement au contact du jeune public. On va plus analyser ce qui s'opère et les évolutions. Et effectivement, les comportements alimentaires, à cet âge-là, ils sont très importants parce que c'est la construction du corps, la construction d'un soi alimentaire. C'est à des moments de revendication, d'affirmation. Donc, on a parlé du végétarisme, qui est un vrai moyen de s'affirmer politiquement, d'affirmer sa conscience environnementale ou du bien-être animal. Donc ça, c'est très important. Et tout ça, c'est encore un âge qui se fait sous influence. Sous l'influence de l'héritage familial. Et donc, il y a, on l'a évoqué, une grande dimension émotionnelle autour de l'alimentation, de retrouver aussi du lien affectif qui est tissé à travers le lien social dans la famille, le plat de la grand-mère, etc., qu'on va et peut-être perpétuer aussi plus tard. Une espèce d'aliments doudou qui vont faire du bien, qui vont rappeler la grand-mère. Donc, il y a vraiment ce développement des habitudes alimentaires entre la construction individuelle et puis l'héritage familial. On est vraiment encore à un âge où on est pris entre deux feux.
Et on peut être engagé, comme vous l'avez défini, Stéphanie Antoine. On peut être pré-ado. On peut être l'ado t'inquiète, je gère, l'ado flemme, l'ado gamer, l'ado sportif, l'ado selfie, l'adolescent. Voilà les 8 profils que vous avez définis. Vous avez proposé dans ce livre des recettes qui sont adaptées à chaque profil, avec 3 niveaux de débrouille. De base, gaze et goutte. Alors moi, j'ai besoin de la traduction.
Alors, le gaze, c'est le gros nul. Le goutte, c'est le greatest of all time. Donc, le chef déjà cuisinier à qui on peut faire tout ce qu'on veut. Et l'ado de base, c'est le basique. On va essayer de faire plus ou moins des trucs sympas.
Ce qui est bien, c'est que vous avez mis la traduction des recettes évidemment, dans l'index pour les boomers, pour les darons.
pour les
parents. Vous nous avez proposé pour le site la recette d'Adinios Irmao.
Quoi? Alors, Irmao, ça veut dire frère. Donc un terme qu'on utilise beaucoup quand on est adolescent, que ce qu'on soit une fille ou un garçon, pour parler à des filles, à des garçons ou des adultes, enfin frères quoi. Et donc les dadinos, c'est des petites galettes, des petites boulettes croquettes de billes de tapioca. C'est ultra simple à faire, je pense que c'est une recette gaise, si je ne me trompe pas.
Tout de suite.
C'est un truc qu'on fait cuire dans le lait, gonflé dans le lait, du fromage, et qu'on laisse poser au frais, et ensuite on coupe en petits cubes.
Non, c'est un niveau de débrouille de base.
Bon, ben voilà. Donc c'est vraiment, il y a des plus faciles que ça, incroyable. Et ça se mange chaud, coulant, croustillant, et ça se trempe dans une petite sauce épicée.
h 25 sur France Culture, la cuisine épicée du frère Maurice Sacco. Maurice Sacco, bah évidemment, vous allez nous parler du kebab, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé du kebab, on vous laissait la primeur.
Non, on n'en a pas beaucoup parlé, ou pas assez pour moi en tout cas.
Évidemment. Pourquoi le kebab?
Alors, le kebab, parce que je me suis posé une question, et je me suis dit, si je devais résumer mon adolescence à un seul plat, lequel je choisirais? Eh bien, ce serait le kebab. Ou le grec, comme on dit à Paris. Le kebab, pour moi, c'est un véritable marqueur sociétal, générationnel et culturel. Sociétal, tout d'abord, car il divise. Il représente à juste titre une certaine malbouffe, mais jouissant d'une popularité sans appel. Générationnel, car il a une connotation particulière pour deux générations. La mienne, les trentenaires, et des quarantenaires. J'ai le souvenir des discussions avec mes neveux dans la quinzaine, m'expliquant que, je cite leurs mots, hein, le kebab, c'est un truc d'ancien. Déjà, se faire traiter d'ancien à 32 ans, c'est pas sympa. Mais j'assume avoir compté en kebab pendant très longtemps. Un kebab égale 5 euros, donc 15 euros dans ma poche égale 3 kebabs. Et surtout, le kebab est un véritable marqueur culturel. En France, on retrouve des kebabs jusqu'au moindre petit village. Mais tout d'abord, c'est quoi un kebab? Venu de Turquie, la version la plus répandue en France est les doner kebab. Doner veut dire tourner en turc, car la viande tourne sur sa broche, évident. Et cette viande, ça peut être de l'agneau, du veau, de la volaille, entre autres. Elle est tranchée, puis disposée sur un pain et accompagnée de sauce et du fameux triptyque salade, tomate, oignon. Mais comment le kebab il est arrivé et surtout comment il s'est imposé en France? En France, on constate son arrivée pendant les années 90 à Paris, dans le quartier latin. Il est proposé par des restaurateurs grecs à cette époque. C'est à ce moment qu'il gagne son surnom de grec, malgré ses origines turques. Les grecs, ils ont eux-mêmes leur propre version du kebab, c'est le gyros. Mais le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, le kebab à Paris, il entame une nouvelle mue. Donc il est poussé par une génération de clients bénéficiant d'un pouvoir d'achat désormais plus large et souhaitant retrouver le goût de leur adolescence, sans renier les exigences alimentaires de notre époque. C'est-à-dire un sourcing transparent des produits... des circuits courts et du fait maison. Une nouvelle vague de kebab fait son apparition. Pour citer quelques adresses, on retrouve Surprise, Ozelem ou encore Broche, des kebabs au sourcing impeccable, local, avec des broches, sauces, pains, tous fait maison. Certes, il y aura toujours à redire sur le kebab d'un point de vue nutritionnel, mais l'observer, c'est un exercice assez plaisant. Car observer l'évolution des exigences alimentaires d'une génération, c'est plutôt pas mal. Et cette génération, je pense qu'on peut dire que la contradiction ne lui fait pas peur. Je vais finir avec une recette non pas de kebab, car ça nécessite un matériel trop spécifique, mais du lahmacun, spécialité turque qui ressemble en quelque sorte à une pizza. Donc voici la recette. Étaler à plat comme une pizza, une base de pâte levée qui ressemble à un pita. Puis hacher de l'ail, de l'oignon, du persil, du poivron et de la tomate. Puis mélanger avec de la viande hachée. En parallèle, mélanger du concentré de tomate avec du cumin, du paprika et un peu de coriandre en poudre. Et étalez-le sur votre pâte. Puis étalez ensuite uniformément votre mélange de viande hachée et cuire au four à 210 degrés une dizaine de minutes. Une fois cuit, vous pourrez y déposer de la salade, des tomates et des oignons bien sûr, et le rouler comme un wrap. C'est plus léger et plus sain qu'un kebab, mais tout aussi délicieux.
Ado et daron, si vous n'aviez pas votre stylo, cette recette est bien sûr sur notre site, sur notre page des bonnes choses, sur notre site franceculture.fr. Merci beaucoup Maurice Sacco pour cette chronique. Un grand merci à nos deux invités, Damien Conaré et Stéphanie Antoine, co-autrice avec Pauline Beauvais de L'Ado la dalle, paru aux éditions La Martinière, que je recommande bien évidemment à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, jeunes et moins jeunes. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, une émission pensée et préparée désormais avec l'aide de Léa Varin, réalisée par Jean-Christophe Francis. Aujourd'hui à la mise en onde, c'était Nicolas Leroulet. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.